êtes toujours à l'écoute de Radio PFM sur le 99.9 en direct pour cette journée sans ordi 3. On accueille notre première invitée ce matin. Salut à toi Camille.
Bonjour.
Merci d'être venu, merci d'être venu de loin et avec un chemin un peu tortueux, hein, parce que tu es venu de Lens à vélo, c'est ça ?
Oui, partiellement, suite à une rupture de correspondance.
Alors, tu fais partie de cette coopérative CLIS 21 dont on va parler un petit peu et puis on va aussi parler de différents enjeux du numérique sur lesquels tu as pu peut-être réfléchir. D'abord, une première question, est-ce que tu joues le jeu ? Est-ce que tu es sans ordinateur, sans smartphone aujourd'hui, Camille ?
Alors,
compliqué, hein.
C'est compliqué. Je suis pas venu avec mon ordinateur portable, ni celui de boulot, ni mon ordinateur perso. Après, comme je venais de loin, j'ai quand même pris mon téléphone pour pouvoir prévenir au cas où. D'ailleurs, c'est le cas. J'ai dû appeler le standard tout à l'heure pour prévenir du problème de train. Et comme je venais partiellement à vélo, j'ai pris mon GPS, mais un GPS qui est déconnecté, qui n'est pas sur mon smartphone.
Alors, comme on l'a dit, tu travailles pour CLIS 21. C'est quoi exactement ton boulot, alors, toi ?
Alors, je suis ingénieur en logiciel libre. Je fais partie de l'équipe technique, donc on met en place des services de messagerie, on fait des sites web, on s'occupe de gérer des postes et des serveurs. Mais en même temps, à côté, la coopérative a aussi un pilier sur l'éducation populaire et la réflexion critique sur les technologies. Donc parfois on publie des communiqués, on fait des ateliers ou des actions sur tel ou tel sujet autour des libertés numériques. Voilà.
Alors, une coopérative qui travaille en logiciel libre, peut-être expliquer ou réexpliquer aux auditeurs, aux auditrices le concept un peu de logiciel libre.
Un logiciel libre, c'est un logiciel qui permet, qui garantit un certain nombre de libertés qu'on n'a pas avec tous les logiciels. Donc c'est déjà un début de critique sur les logiciels. Donc les quatre libertés, c'est d'abord, le logiciel, on peut l'utiliser comme on veut. Il n'y a pas de restriction contractuelle de « non, vous n'avez pas le droit de faire ça avec ce logiciel-là, c'est interdit de faire ça ». Donc ça, c'est la première des libertés. On peut regarder comment le logiciel fonctionne pour être sûr qu'il n'y a pas de mouchard, qu'il n'y a pas des problèmes, ou juste par curiosité de dire « ah tiens, comment ils ont codé ça ?» De cette liberté découle aussi la troisième, donc de pouvoir éditer le logiciel si on dit « ah bah tiens, bah, je voudrais rajouter ça » ou de demander à quelqu'un de « est-ce que tu pourrais rajouter ça ?» comme fonctionnalité dans le logiciel. Et la dernière des libertés, c'est si on aime bien le logiciel, qu'il y a quelqu'un qui l'aime bien, on peut lui dire « tiens, je te passe une copie du logiciel
». Alors tout ça, ça remet en question, ça questionne en tout cas les questions de propriété intellectuelle, les questions de brevets, les questions de à qui appartient le savoir, l'ingénierie liée à un logiciel.
Le copyleft et les licences libres, juridiquement, elles se basent en partie sur le copyright, mais il y a effectivement il y a une politique, comme disait l'autre invité, l'ancien, il y a une politisation sur la propriété intellectuelle le code il doit pouvoir être si on disparaît ou si l'auteur disparaît, il y a d'autres personnes qui peuvent se réapproprier, qui peuvent maîtriser l'outil, qui peuvent continuer l'outil. Donc, même si ça se base sur le cadre juridique existant, oui, il y a une critique de la propriété intellectuelle et notamment des brevets logiciels. La plupart des gens du logiciel libre sont contre les brevets logiciels.
Ça vient aussi en opposition à un certain accaparement. On le voit, bon, on parle des GAFAM, mais de manière générale, l'Internet est approprié par des grandes entreprises capitalistes avec ce modèle-là. Comment tu vois les choses un petit peu par rapport à ça?
Au niveau d'Internet, ça a commencé quand même il y a... Enfin, le réseau Internet, il a bien... plus de 50, enfin, non, il a été créé dans la fin des années 60, début des années 70, mais il s'est vraiment développé en Europe, notamment dans les années 90 et après. Et oui, il y a un accaparement progressif d'Internet, mais aussi des données personnelles des gens, de plus en plus par une poignée d'acteurs qui contrôlent les mails que vous envoyez, les messages que vous envoyez, les photos que vous stockez, enfin tout.
Bah justement, on va en parler un petit peu. Tu parlais un petit peu de l'histoire d'Internet. Tu disais voilà, fin années 60, début 70. Peut-être justement aussi, ça c'est intéressant de connaître un peu l'histoire des technologies et d'Internet. Est-ce qu'au début, c'est une utopie c'est des rêveurs, les gens qui ont créé Internet? Ou bien, je ne sais pas exactement ce que c'est l'histoire, si ça vient de l'armée ou quoi. Mais comment tu vois un petit peu les débuts d'Internet par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui?
Alors, historiquement, c'est un projet de recherche de la DARPA, de l'Agence de financement de la recherche militaire, si je ne me trompe pas, américaine. Enfin, en tout cas, c'est un projet qui était là pour apporter de la résilience en cas d'attaque nucléaire sur le territoire américain, de faire un système de communication qui soit résilient. C'est pas improbable que, et je pense que c'est le cas, qu'il y ait pas mal de chercheurs en informatique un peu libertaires qui ont vu ça comme un outil émancipatoire. Il y a les hackers, on pourra définir hackers après, qui sont emparés comme un outil émancipatoire. Et au début, oui, il y a chaque personne qui pouvait facilement héberger ses mails, son site, d'autres services. Je pense qu'il y avait... À plusieurs périodes du développement d'Internet, un idéal d'émancipation.
Est-ce que cet idéal, à ton avis, il survit ou il résiste encore? Enfin, comment tu vois les choses un peu par rapport à ça?
J'ai peur d'être un peu pessimiste. Il y a toujours des gens, des passionnés qui s'auto-hébergent, qui créent des services, qui mettent en place des communs comme OpenStreetMap ou Wikipédia. J'ai l'impression qu'il y a il y a certains qui disent une emmerdification de l'Internet. Il y a...
Emmerder comme ennuyeux ou non, emmerder comme ça nous embête
Non,
ça,
dans
ça
le sens
agace.
Où quand j'ai commencé à faire des sites web, mi-année 2000, une page web, elle faisait 40 kilooctets. Maintenant, elle fait une page web sur un blog qui charge des images et du JavaScript, qui charge des trucs. Ça fait 20 mégas, donc soit on passe de 40 à 20 000. Et ça charge des tas de mini-programmes dans la page web. Ça demande des ressources électriques de calcul. Enfin, bon, ça va, c'est n'importe quel téléphone ou ordi peut calculer ça. Mais est-ce qu'on a besoin de choses aussi lourdes et aussi compliquées? Et d'une manière globale, enfin, de plus en plus de sites font appel à des scripts qui sont chez Google, chez Amazon, chez Cloudflare, chez Microsoft. Enfin, du coup, même pour un petit blog qui n'est pas hébergé chez les GAFAM, des fois, on en vient à charger des données chez les GAFAM et à donner des données personnelles chez les GAFAM.
Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'utopie de certains autour d'Internet du début, et tu nous as promis une définition du hacking, des hackers. Qu'est-ce que toi tu mets derrière ce mot hacker? Parce que bon, si on écoute les médias mainstream, un hacker c'est un méchant pirate informatique qui va prendre de l'argent sur le compte en banque de mamie.
Alors, à l'origine, et je pense que ça reste ma définition, un hacker ou une hackeuse, c'est la traduction, ça serait bidouilleur ou bidouilleuse. Quelqu'un ou quelqu'une qui explore la technologie, qui la modifie, qui parfois la détourne, mais dans 95% des cas, pas dans un but de destruction ou de piratage. Et je pense que c'est en partie l'idéal hacker qui a animé le développement d'une partie d'Internet pendant toute une période.
Alors aujourd'hui, il y a encore des hackers. Certains sont même un peu récupérés hein, par les entreprises. Comment tu vois? Toi, tu te définis un peu comme hacker? Tu fais ça à côté ou... Je préfère pas en parler.
Je suis intéressé par la réappropriation et la maîtrise des technologies. Je me définirais pas comme hacker ou hackeuse, mais plus comme, je pense, comme libriste et contributrice au commun. Notamment, je contribue à OpenStreetMap.
Donc OpenStreetMap, pour expliquer un petit peu aux auditeurs et aux auditrices,
c'est une carte. Oui, c'est un peu le Wikipédia de la cartographie. C'est une carte libre et ouverte sur une licence libre, la licence ODBL, qui est un peu comme les Creative Commons dont le sujet a été traité juste avant. Et en gros, on peut rajouter des routes, des maisons.
Donc tu vas dans la rue pour faire des mesures? Enfin, comment ça se passe un peu concrètement?
Généralement, moi, c'est quand je me déplace à vélo, je marque un truc qui manque sur la carte, je le rajoute le soir. Ou sinon, parfois, c'est juste avec des photos aériennes.
Alors, on parle un petit peu, si tu veux bien, des libertés individuelles, de la vie privée, des données personnelles, parce que c'est quand même aussi devenu le moteur de l'économie sur Internet. Hein. On dit souvent, voilà, si un service est gratuit sur Internet, c'est que vous êtes le produit. Et en fait, une grande partie du modèle économique de Facebook, d'autres... géant du net, repose sur les données personnelles, la récolte des données personnelles, l'utilisation, la revente des données personnelles. Alors, comment tu vois ça, et peut-être aussi quels conseils tu peux donner aux gens qui nous écoutent là-dessus, quelles réflexions?
Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a une érosion progressive de la vie privée sur Internet et des libertés. Il y a une érosion de la vie privée parce que on installe de plus en plus d'applications, on est sur de plus en plus de réseaux sociaux qui vont récupérer des données aussi diverses que où est-ce qu'on a fait telle action, avec quels outils. Qui vont agréger ce qu'on a écrit pour en tirer des infos sur nos profils de consommation, nos croyances, notre profil politique. Je pense que ça me pose problème, cette érosion de la vie privée et le fait que ça soit compliqué de s'en protéger. Et bah, sur les libertés, bah, si on arrive à nous profiler, on peut nous manipuler d'une certaine façon, ou en tout cas nous proposer ce qu'on a envie de voir. Et ça crée une bulle de perception. Si on est de gauche, on a l'impression que tout le monde est de gauche. Si on est de droite, on a l'impression que tout le monde est de droite.
Mais c'est pas, est-ce que c'est pas déjà un peu le cas dans... Je veux dire, dans le monde, dans la vraie vie, dans la vie loin des claviers. C'est-à-dire que, bah voilà, quand on est de gauche, nos amis sont de gauche. En général, on est dans un groupe social aussi qui nous ressemble et qui nous le déplaît pas trop. Je sais pas, moi, j'ai aucun ami qui est votre extrême droite, par exemple.
Bah, dans la vraie vie, on peut aller prendre un café ou une bière dans un débit de boisson et puis rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout du même bord politique. Ou même mon voisin de droite, il est peut-être à gauche et mon voisin de gauche, il est peut-être à droite dans ma rue. Donc, et les outils de réseaux sociaux et les outils informatiques ont une tendance à présenter ce qu'on a envie de voir. Ça nous procure du coup de la dopamine, un côté récompense. Le fait qu'on voit ce qu'on a envie de voir, on continue d'utiliser l'outil, on scrolle, on consomme. Et voilà.
Peut-être aussi sur justement la préservation de la vie privée. Souvent quand on utilise un service sur Internet ou quand on arrive sur un nouveau site ou qu'on utilise une application, voilà, on la veut rapidement. Donc on fait accepter. Et faudrait peut-être lire, mais en même temps, quand il y a 12 pages de contrat. Les gens ne font pas ça en fait. Et du coup, c'est aussi ça qui pose le problème de l'acceptation, des limites qu'on peut fixer à tel ou tel service.
Est-ce que tu peux reformuler?
Sur la préservation de la vie privée. Ma question, c'est que en fait, on se sert de services sur Internet et que on accepte finalement de n'importe quoi en fait, sans vraiment y réfléchir, sans lire les contrats, sans lire les petites lignes, on accepte, on fait accepter, et on se soumet finalement à ce risque que sans avoir lu le contrat, on peut utiliser nos données personnelles.
Du coup, avant de s'inscrire, moi, j'aurais tendance à me poser. Peut-être avec un bout de papier ou sans bout de papier. Mais à me poser, à me dire, là, on m'a invité à m'inscrire sur tel réseau. Est-ce que j'en ai besoin, déjà? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas redondant avec une autre plateforme? Genre, je partage mes photos sur telle plateforme. Est-ce que je vais partager mes photos sur telle plateforme? Est-ce que j'ai besoin de trois plateformes pour partager ça. Et puis, en se posant 5 minutes, de se dire, mais c'est qui est derrière cette plateforme? Par exemple, personnellement, moi, je suis sur Mastodon, qui ressemble à Twitter un peu, c'est des micro-messages, mais c'est libre et décentralisé. C'est basé sur des logiciels libres dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi... plus d'une centaine d'organisations, peut-être plus, qui ont chacune leur serveur, et tout ça, c'est interconnecté les uns avec les autres. Là, par exemple, les conditions d'utilisation, elles sont relativement courtes sur l'endroit où je suis. J'ai plus envie d'être à cet endroit-là, je peux basculer sur un autre service qui est compatible. Et comme toutes ces plateformes elles sont intercompatibles, j'ai pas besoin d'avoir 3-4 comptes. Mais par exemple, on m'a invité à être sur différentes messageries instantanées. J'ai pas envie d'avoir 12 comptes de messagerie instantanée. Du coup, je suis que sur deux messageries instantanées différentes. Sur les réseaux sociaux, Il existe une quinzaine de réseaux sociaux assez dominants. Mais globalement, je vais être que sur trois qui ont des usages très, très différents. Donc, voilà. En fait, juste se poser avant de se poser et réfléchir un peu et se renseigner, notamment sur Wikipédia, sur la fiche du service, qui détaille potentiellement les polémiques qu'il y a pour tel ou tel service ou les problèmes qui peuvent se poser avec la licence de tel ou tel service. Et juste prendre un peu de recul.
Ce recul, en tant qu'utilisateur, que ce soit une association ou à titre individuel, bon, on ressent quand même une forme de pression parce que bon, je vois par exemple un collégien qui n'est pas sur tel ou tel réseau peut se sentir exclu. Voilà, en tout cas, c'est l'argument qu'il peut présenter à ses parents pour avoir tel ou tel réseau social, expérience vécue, ou pour une structure, prenons une association qui fait une... de la radio, par exemple, voilà, elle peut se poser cette question de est-ce qu'on est sur telle ou telle plateforme ? Est-ce que les gens, si on n'y est pas, est-ce que c'est il y a ce danger que bah, les gens ne nous écoutent plus, ne nous fréquentent plus, n'écoutent plus nos émissions, ne nous connaissent plus ? Comment tu vois cette approche-là qu'on peut comprendre aussi, quoi ?
Alors, mon analyse sur ces services-là, c'est que c'est leur stratégie justement de par exemple, on parlait de plateformes de partage de photos. S'il y en a, par exemple, trois différentes, elles vont choisir de ne pas interopérer les unes entre elles, de ne pas se rendre compatibles. Et elles vont jouer sur la hype, le côté cool, justement pour que qu'il y ait un effet de masse et que plus il y a d'utilisateurs et d'utilisatrices, plus il y en a d'autres qui vont avoir une pression sociale pour s'inscrire dessus. Et plus il y en aura, plus ça va faire boule de neige. J'aurais tendance à dire qu'il faudrait un cadre juridique pour forcer l'interopérabilité, donc la compatibilité entre les plateformes. Et ça ferait tomber la pression d'être sur telle plateforme de partage de photos ou telle autre. Et ça serait encore mieux si c'était basé sur des standards ouverts et des normes ouvertes et claires.
Camille, on va faire une petite pause musicale avec un CD, hein, puisque c'est la journée sans ordi, il n'y a pas de MP3 promis. Disque, vinyle, cassette, CD au menu aujourd'hui. On fait une petite pause avec Gil Scott Heron.
We'd like to do a poem that was inspired by a still life in the subway that was a commercial for a movie called The Green Slime. And we call this poem Omen. A giant eye zapped across the screen with tentacle type, feeler type, thin roots reaching for someone, maybe me, with large black block letters chiseled into the whites around the pupils screaming R E V O L U C-I-O-N revolution. And as the eye, giant and green, sort of oozed with no obvious locomotion, closer and closer until it was like this on my screen. It split and blood flowed down each side of the street, washing away things that we didn't need to see, just like beer cans, peanut shells, and copies of the Daily News. And then, laying there, bleeding like a stuck pig, was a stuck pig. Get the point?
Gary Scatteron sur Radio PFM 99.9 dans la journée sans ordi. On est toujours avec Camille en direct avec nous. Camille, ingénieure chez CLIS21, coopérative de logiciels en logiciel libre. On peut dire ça comme ça, oui. Hein, je ne dis pas de bêtises. On écoutait un CD là et on parlait un petit peu d'obsolescence des techniques. Le CD en voie de disparition, tu penses?
J'ai voulu numériser de la musique, enfin la mettre en MP3 sur mon ordi récemment, et j'avais pas de lecteur CD, donc c'est ce dont on discutait pendant la pause musicale. Et par exemple, les lecteurs de mini-disques, on en trouve encore dans les studios de radio, mais ça a tendance à disparaître aussi. Et globalement, l'informatique, il y a quand même un gros enjeu d'obsolescence programmée. On peut prendre le cas des téléphones portables et le cas des ordinateurs. La plupart des gens ont un smartphone qui est soit sous Android, soit sur iOS de Apple. Et dans les deux cas, au bout de quelques années, le logiciel sera plus on ne pourra plus installer les nouvelles applis. Donc il va falloir jeter son smartphone ou le donner à quelqu'un d'autre, mais qui ne pourra pas installer de nouvelles applis, et changer de smartphone pour pouvoir mettre les nouvelles applis compatibles, parce que c'est plus développé pour l'ancien système. Il n'y a pas beaucoup de logiciels libres pour les smartphones. C'est très très fermé et très découpé entre les deux plateformes Android et iPhone. Et pour les ordinateurs, c'est un peu la même chose. Il y a les nouvelles versions de Windows qui vont dire « Ah, mais vous n'avez pas telle puce, telle option dans l'électronique, donc la nouvelle version, elle ne s'installe pas. » C'est aussi pour ça que personnellement, je suis assez fan de logiciels libres, c'est que ça peut être maintenu plus longtemps dans le temps, il y a plus d'efforts pour que ça fonctionne sur du vieux matériel. Donc ça réduit un peu l'obsolescence programmée. Bon après, il y a quand même une grosse consommation de ressources, que ça soit en libre ou en pas libre. On a quand même une augmentation des ressources et des besoins de calcul, de mémoire et de stockage de plus en plus forts.
Oui, on en a déjà parlé au cours de l'interview avec Fabien Lebrun, puis on en reparlera aussi dans une autre interview qu'on va vous proposer au cours de la matinée ou au cours de la journée. Camille, il y a un élément plus ou moins nouveau qui est aussi entré en jeu, qui s'impose un peu comme une nouvelle porte d'entrée dans Internet, comme les réseaux sociaux ont essayé de le faire, c'est l'intelligence artificielle. Il y en a qui disent que voilà, au lieu d'ouvrir n'importe quelle page internet, Google ou Facebook ou quoi, un jour, bah voilà, ce sera ChatGPT l'entrée par laquelle on rentre par internet, avec aussi là aussi une consommation importante, et puis d'autres enjeux par rapport à l'élaboration, le contenu, l'utilisation aussi des données.
Oui. Alors, déjà, je voudrais commencer par donner ma définition de l'IA. Et après, pour parler un peu des enjeux de ces différents enjeux. L'IA, il y a le terme de intelligence et artificielle, mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'intelligence. En termes techniques, c'est ce qu'on appelle un modèle de langage large, un LLM. C'est grosso modo, c'est un programme avec des milliards de paramètres qui est entraîné sur des données humaines. Des textes, de la musique, des photos, des vidéos, et qui va d'une certaine manière, pour faire simple, donner la réponse la plus probable en fonction du corpus, enfin de l'ensemble des textes, photos, vidéos avec lesquels il a été alimenté. Donc en fait, ça On parlait des bulles de perception. Ça donne la réponse la plus attendue, mais qui n'est pas forcément la réponse la plus correcte, parce que s'il y a dans le contenu qui alimente le modèle, il y a des erreurs, les erreurs elles sont reproduites. Et puis c'est fabriqué par des humains, c'est ces IA, donc les modèles ils ont les biais de ces humains. Et donc j'en viens aux enjeux, il y a des enjeux sociaux et politiques. Qui contrôle ces modèles? Souvent, c'est des grosses entreprises. Les corpus de textes et de données, ils ne sont pas publics. Donc, on ne peut pas analyser forcément les biais qu'il peut y avoir dans les données d'entrée. Les modèles sont rarement publics aussi, donc on ne peut pas non plus... analyser le cadre et de, enfin de la programmation. Ça donne des enjeux politiques parce que du coup, qui maîtrise les IA maîtrise la diffusion de contenu par ces canaux. Et donc c'est arrivé par exemple qu'il y a certaines IA qui aient des biais racistes, sexistes, homophobes. Enfin voilà. Il y a la consommation de ressources qui n'est pas neutre, comme ce sont des programmes qui ont des millions, milliards de paramètres, il y a une consommation en mémoire, en calcul, qui est assez énorme. On considère que la consommation des IA en data center, parce que c'est aussi centralisé dans des grands hangars avec des tas de serveurs, c'est 7 à 8 fois la consommation des outils classiques, des moteurs de recherche, des sites web, des messageries. Donc il y a un enjeu écologique. Là, dans la région, il va y avoir 7 ou 8 nouveaux data centers, si je ne me trompe pas. Il y aura peut-être dans 15 ans, 20 ans, la question de est-ce que j'alimente mon chauffage, mon ordi à moi, mon éclairage, ou est-ce qu'on alimente les data centers? Il y a ces enjeux-là. Quand les IA elles sont utilisées par des outils de vidéosurveillance, de contrôle social, par des institutions publiques, il y a les enjeux de l'impact réel, financier et parfois dramatique sur des personnes. Comme les IA, elles ont des biais, et ben du coup elles vont cibler tel ou tel type de population parce que c'est le modèle prédit que il y aura plus de risques chez telle ou telle population, alors qu'en fait c'est déjà alimenté à l'origine par le corpus de données où il y a déjà des humains qui ont leurs propres biais. On en a tous, hein. Il n'y a personne qui est pur et sans biais.
Alors on parlait un peu de consommation d'énergie, on peut parler aussi de fabrication, enfin de production de données. Une des excuses ou un des prétextes pour avancer dans la technologie, c'est justement aussi l'idée qu'il y a besoin de plus de réception de données, il y a besoin d'économie d'énergie, notamment, donc c'est un des arguments pour mettre en place le réseau 3, 4, 5, 5G. Comment tu vois un petit peu ces nouvelles technologies et puis leur impact?
Alors, ça rejoint le côté obsolescence programmée dont on parlait tout à l'heure. Avec l'évolution des réseaux qu'on nous a vendus pour être toujours de plus en plus écolo et de consommer de moins en moins, en fait, comme on a de plus en plus de débit, il y a des nouveaux usages qui se développent. Et du coup, on compense des améliorations technologiques et par de plus en plus de consommation. Il y a un effet rebond. À chaque fois qu'il y a une amélioration, du coup, on va consommer plus. Ça peut être dans le sur les débits internet, passer de la DSL à la fibre, passer de la 3G à la 4G ou à la 5G. Ça peut être avec le train. Plus on a augmenté la vitesse des trains, bah plus on est allé loin, du coup. Et plus on a bougé. Bon, c'est pas forcément négatif, mais d'un point de vue humain. Mais par contre, l'impact sur la consommation énergétique, il est là. Et est-ce qu'on a besoin, du coup, d'utiliser toujours plus de ressources en radio, parce que bah, les téléphones portables, ça utilise des fréquences radio, mais elles sont pas illimitées. Est-ce qu'on a besoin de plus en plus de débit? Est-ce qu'on a besoin de tel ou tel usage? Là, pareil, c'est toujours la question de est-ce qu'on peut se poser 5 minutes sans moyen technologique et juste réfléchir pour soi-même, est-ce que j'ai besoin de ça ou est-ce que j'en ai pas besoin?
Alors peut-être une dernière question, Camille, si tu veux bien, une question peut-être un peu plus personnelle. On parlait un petit peu avant de préparer cette intervention. Tu es concerné par le trouble du TDAH, c'est ça?
Oui, par le trouble de l'attention, avec notamment des problèmes de concentration, comme le nom l'indique. Et du coup, on parlait de la journée sans ordi et sans téléphone. Et là, c'est plutôt personnel, ma réflexion, mais je pense que c'est valable aussi pour les personnes qui n'ont pas le trouble. En fait, on est bombardé de notifications. On essaye de nous pousser à mettre plein d'applis. On a parfois le téléphone à côté du lit. Et du coup, j'ai remarqué que l'informatique et les applis ont tendance à nous capter de l'attention, à nous... Moi, dans mon cas, quand je perds mon attention, je mets du temps à la... Par exemple, si je suis sur une tâche de travail, à me remettre dessus. Et du coup, il y a un risque de fatigue, d'usure de la personne, qu'on soit TDAH ou pas. J'ai l'impression que il y a un côté addictif de certaines applis. Elles sont conçues, il y a certaines applis, notamment de réseaux sociaux, qui sont conçues pour générer des pics de dopamine. Et en fait, on va aller chercher sa dose de dopamine en scrollant sur le nouveau contenu, la nouvelle vidéo TikTok, le nouveau contenu Facebook. Et ça m'a amené personnellement, sur les 10 dernières années, à essayer de m'alléger, de garder ce qui est nécessaire et ce qui me fait vraiment du bien. D'enlever le superflu et notamment je prenais des notes au niveau informatique et mon agenda au niveau informatique. Maintenant, je prends plaisir, là j'ai mon carnet de notes sous la main et j'ai mon agenda papier dont j'ai dessiné moi-même le modèle et que j'imprime moi-même et je pense que ça peut faire du bien. Qu'on soit TDAH ou pas, de ce recul sur la technologie et de faire des choix pour vivre mieux. Le confort, l'impression de confort de certains outils, ça peut cacher un inconfort et une usure si on subit tous ces outils-là et qu'on choisit pas et qu'on règle pas. Par exemple, certaines applis, on peut dire je désactive les notifications, j'ai pas besoin que cette appli elle m'envoie des notifications tout le temps. Voilà.
Ouais, c'est ce qu'on appelle aussi la fatigue informationnelle, c'est ça?
Oui.
Ben merci Camille d'être venu. Tu restes avec nous un petit peu pour écouter la suite ou éventuellement encore intervenir si tu veux. Et on va faire une petite pause et puis après on va écouter un autre témoignage recueilli par téléphone hier.